maintenant céder la parole au professeur Thomas Berns de l'Université libre de Bruxelles.
Bien, merci. Alors, je vais essayer de traiter globalement et synthétiquement les trois interventions, en espérant ne pas être d'ailleurs trop caricatural après les distinctions qui ont été posées par Robert Jacob, et ce, de manière à extraire quelques questions dont vous verrez qu'elles sont particulièrement à la fois évidentes et provocantes, puisqu'elles ont toutes trait au malaise qu'on peut éprouver dès lors qu'on constate une certaine proximité, je dirais, entre les trois cas qui ont été traités, malgré les différences qui existent quant aux vérités et aux contre-vérités qui sont exprimées sur le plan scientifique, évidemment. Et pourtant, les affaires en question se ressemblent. Alors, pour commencer, je voudrais situer mon intervention globalement par rapport à l'objet du colloque, en rappelant que celui-ci aurait deux buts. D'une part, de montrer comment les institutions, et les institutions judiciaires en particulier, produisent de la vérité, et d'autre part, montrer ou mettre en avant une certaine tendance de la société à utiliser les institutions judiciaires pour déplacer ou pour renouveler la vérité. Et déjà là, et ça va me permettre d'organiser la suite de mon exposé, il est intéressant de noter, suite aux interventions qu'on a eues, que les institutions judiciaires apparaissent comme freinant autant que possible, ou comme refusant autant que possible de devoir dire le vrai, et que cette production d'une vérité institutionnelle n'a lieu finalement que suite à la pression et à la provocation justement de la société, et en réponse en quelque sorte à des lignes de fuite qui seraient déjà là. Et dès lors, le modèle, quitte à le caricaturer un petit peu, ne serait certainement pas celui d'une vérité institutionnelle qui existerait au nom de laquelle des écarts seraient réprimés, mais bien plutôt celui d'une vérité institutionnelle qui se forge pour répondre à des écarts, à des provocations qui sont sans cesse commis. Et ceci, cette première remarque, un peu spinoziste, je ne le cache pas, me permet dès lors d'organiser mon exposé en commençant par traiter des provocations et des utilisations des institutions par la société. Pour constater, et j'en viens à mon malaise sur les proximités qu'on peut constater entre les différents exposés, pour constater globalement combien cette utilisation et cet usage du droit est à la fois inventif et constant, puisque suite à l'exposé de M. Ricci, on peut constater que Brown déjà se sert en quelque sorte de l'institution, se sert de l'inquisition, laquelle apparaissait dans un premier temps comme capable, sinon de compromis, du moins d'une certaine indifférence ou d'une certaine tolérance, hein, en développant des lignes plus politiques, plus jésuites en quelque sorte, dans le chef de Bellarmine. On voit que face à cette inertie en quelque sorte, ou une certaine inertie évidemment, de la part de l'institution, Bruno se tourne vers celle-ci pour demander à l'Église d'affirmer sa vérité, c'est-à-dire, comme le rappelait M. Ricci, demande à l'Église de déclarer une doctrine hérétique ex nunc, à partir de maintenant, et non pas toujours. C'est-à-dire, que fait à ce moment-là Bruno, sinon demander à l'Église en quelque sorte de se dévoiler en affirmant sa vérité dans ce qu'elle a d'historique ou autrement dit de relatif d'une certaine manière. Et est-ce que là, on ne serait pas face à quelque chose d'assez proche des tentatives d'historiciser, de relativiser les positions ou les vérités, proche donc de ce qu'on constate chez les créationnistes américains, qui eux aussi font de leur mieux pour ramener les théories évolutionnistes au rang de simples théories parmi d'autres, hein, ex nunc, toujours. Donc voilà, première proximité avec le malaise dans lequel ça nous place, bien évidemment. Ensuite, je voudrais poursuivre, et histoire aussi de mettre sur la table des petites anecdotes marrantes, parfois, je voudrais poursuivre un peu l'exposé de M. Provost, en évoquant rapidement et sans en être vraiment un spécialiste, les pratiques de preuve dans les procès de sorcellerie au XVIe et au XVIIe siècle. C'est toujours marrant, les sorciers. Pour montrer qu'à aucun moment, nous ne nous trouvons face à des jugements qui mettraient face à face, ou qui mettraient aux prises, en quelque sorte, deux vérités contraires. C'est-à-dire que l'essentiel de ces pratiques de preuve ne servent pas à légitimer ou à délégitimer une théorie sur le plan scientifique, mais toujours à nous mettre face à des questions qui portent sur la moralité des acteurs, de manière justement à éviter le débat scientifique, de manière à éviter le moment où nous nous situerions face à deux vérités. Alors, quant à ces preuves, je me base ici sur un texte de Ian MacLean, par exemple, donc des analyses contemporaines, ces preuves sont par définition problématiques, vous vous en doutez, et médiocres, dès lors qu'elles portent sur ce qu'on appelle des faits transitoires. Situation transitoire, res facti transiuntis, des faits transitoires qui sont de surcroît cachés, c'est cela qu'il faut parvenir à établir, qui sont cachés et qui disparaissent d'une certaine manière sans laisser de traces. Ce que j'évoque ici, ce sont les sabbats, les sorts, et plus encore les coïts diaboliques, qui, vous vous en doutez, ne peuvent pas être avérés par des preuves habituelles. Et donc, ce qui se passe, et ce qu'on peut retrouver dans des compilations de textes qu'on a pu conserver de cette époque-là, c'est qu'on va tenter de donner des preuves, mais qui doivent se développer en devant sans cesse contrer et répondre au danger dans lequel on est d'être trompé, évidemment. D'être trompé par qui ? Par le démon. C'est-à-dire qu'il s'agit, par exemple, de trouver la trace du démon sur un corps, tout en sachant que, par définition, le démon peut ou veut la rendre invisible. Et alors, ça va donner un certain enrichissement, je suppose, des pratiques de preuve, qui va forcer, qui va nous forcer à nous tourner vers les doctrines des démonologues, vers des témoignages, vers des pratiques de confession, etc. Mais aussi, par exemple, c'est un exemple que je peux vous citer, à prendre en considération la réputation des acteurs. Prendre en considération la réputation des acteurs en sachant, évidemment, qu'on peut être suspect tout autant par bonne réputation dans ce genre de cas que par mauvaise réputation. Je cite ici un jésuite allemand, Friedrich Spee, qui dit « Ou cette malheureuse a été mauvaise, une sorcière donc, ou de bonne vie, soit, soit. Si de mauvaise, voilà un indice violent de la prétendue sorcellerie, car d'une méchanceté à une autre, la présomption est ouverte. » Si elle était de bonne vie et de louable coutume, l'indice n'en est pas moindre, car ils disent que c'est le propre des sorcières de se couvrir ainsi de l'apparence d'une bonne vie. Alors vous voyez qu'on se situe ainsi en plein sur le terrain de la réputation des acteurs, et non pas évidemment du caractère plus ou moins scientifique des pratiques qu'elles développent, et qu'on cède pour ce faire, évidemment, d'un type d'argumentation, je pourrais vous en donner beaucoup, qui sont évidemment... évidemment fallacieux, j'en cite un autre, si une femme se retire toute seule dans un cabinet ou une chambre, pourquoi se retirerait-elle ainsi seule, sinon pour conférer avec son maître Satan ? Alors, ces argumentations fallacieuses permettent quoi ? Elles permettent avant tout de faire exister ou d'établir une série de faits qui ne sont pas des vérités à caractère scientifique, d'aucune manière, ou pseudo-scientifique, d'aucune manière, mais qui sont évidemment des comportements qui peuvent être poursuivis, et quitte pour établir ces faits à céder d'arguments d'autorité, évidemment, bien légitimes dans ce genre de circonstances, et je vous en livre un, tout particulièrement intéressant, qui porte sur le transport des personnes dans l'air à l'aide d'un balai. Ici, c'est Pierre Delancre dans le tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons. Ajoutons-y que l'Église catholique, apostolique et romaine, qui ne peut errer, qui ne peut se tromper, donc, punit les sorciers de mort. Or, elle errerait grandement d'en user, si sévèrement, s'il n'était sorcier et criminel que par songe. Il faut donc nécessairement inférer que quiconque croit que les transports, c'est-à-dire les vols à travers l'air sur un balai, sont seulement prestige, songe et illusion, pêche contre l'Église, laquelle ne punit pas des crimes incertains, occultes et non manifestes. Donc il y a des vols sur balai. Donc il s'agit toujours ainsi d'établir un fait dont on constate rapidement qu'il éloigne évidemment et qu'il sert à repousser la possibilité dans laquelle nous pourrions nous trouver, de nous situé face à l'opposition entre deux pratiques médicales, entre deux pratiques scientifiques, dont il s'agirait de conclure que l'une est plus vraie ou l'autre est moins vraie ou plus fausse. Et dès lors que, tout simplement, une des deux pratiques est entièrement anéantie en tant que pratique médicale par le seul fait des comportements moraux qui l'accompagnent. Alors je vous livre malgré tout encore un dernier passage, et puis je vais bientôt m'arrêter en revenant à des considérations plus générales. Puisque les remèdes sont hors la connaissance des médecins et qu'ils ne peuvent opérer naturellement, donc, puisque ce n'est pas le fruit de la médecine reconnue, disons pour aller vite, la médecine traditionnelle, ni que ces remèdes ne peuvent être le fruit d'une évolution naturelle, il faut de la conclure que la guérison se fait par le ministère du démon. Alors, pourquoi ai-je mis tous ces éléments sur la table, au-delà du fait qu'ils rebondissent sur la question de la sorcellerie, dans la mesure où ce qu'il me semble pouvoir constater ici, c'est que la situation, en quelque sorte, d'arbitrage entre deux vérités est sans cesse évitée. Et qu'on peut, à ce titre, constater, c'est une manière un peu provocante, évidemment, d'adresser des questions à ceux à qui je dois répondre, qu'on peut, une nouvelle fois, constater, quant à cette manière de l'institution d'annuler la possibilité d'une rivalité scientifique, une certaine proximité avec les réactions judiciaires aux différentes tentatives des créationnistes dont les théories sont renvoyées, non pas à leur fausseté scientifique, sauf peut-être dans le dernier exemple que Guy Archer nous a donné, mais au fait qu'elles sont toujours en train de cacher des valeurs, hein, qu'elles sont toujours le support hypocrite, comme tu le disais d'ailleurs dans le papier que tu nous as donné auparavant, hein, qu'elles sont toujours le support à des valeurs religieuses et dès lors qu'elles sont anticonstitutionnelles. Et pour conclure, d'ailleurs on peut revenir sur cette base-là à Giordano Bruno pour rappeler que finalement, évidemment, on n'a pas gardé d'énormes traces de son procès, mais on peut supposer que l'essentiel des on peut supposer ou reconstruire, disons, l'essentiel des accusations qui ont été portées contre lui, et constater d'ailleurs que c'est ce qui est relayé ensuite dans la littérature des apologistes, par exemple chez Mersenne. On peut constater que les accusations qui sont portées sur Bruno finalement ne portent que très peu, voire pas du tout, sur des vérités scientifiques. Et que ce qui est toujours pointé par l'Inquisition, ce ne sont pas donc des vérités qui sont en jeu, mais des rapports à la vérité, des manières de se référer à la vérité. C'est-à-dire que c'est l'indépendance de Bruno, le fait qu'il tente de penser hors des écoles de théologie, hors de l'institution, donc le fait qu'il se rapporte, il prétend pouvoir se rapporter directement à Dieu. C'est son obstination, ses excès. C'est le fait qu'il se tourne vers des auteurs de la tradition, disons, matérialiste, antique. C'est tout cela qui lui vaut, finalement, essentiellement, de se faire traiter, par exemple, par Mersenne, non pas de mauvais scientifique, mais essentiellement de libertin, hein, pour ce rapport libre, disons, au savoir. Tout ça pour dire, et c'est ma manière de conclure, que finalement, ce face au quoi on se trouve, ce n'est jamais le procès directement d'une vérité, mais bien plutôt le procès d'un rapport à la vérité.